Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal de Radio Okapi. Dona Madimba à la présentation et voici les titres. La vague actuelle d'Ebola qui sévit en République démocratique du Congo a déjà causé plus de 100 morts. Le pays continue de faire face, affirment les experts congolais qui comptent aussi sur les États-Unis notamment pour accélérer la mise en place du traitement. Mais déjà la communauté internationale annonce des appuis supplémentaires en cours. La RDC et le Burundi continuent de renforcer leur entente bilatérale. Hier, les ministres de la Défense des deux pays se sont rencontrés et ils ont signé un rapport de sécurité conjointement élaboré. Une délégation de quelques agences de l'ONU séjourne en ce moment en Ituri pour aider les autorités locales à faire face au virus Ebola qui, en quelques jours, a déjà causé plus de 100 morts. Alain Akpadji, représentant résident de l'UNFPA en République démocratique du Congo, est notre invité dans un instant. Le ministre de la Défense a annoncé que la RDC a sollicité les États-Unis afin qu'ils mettent à sa disposition une molécule développée contre le traitement pour la souche Zaïre du virus destinée à la prise en charge des malades. Samuel Roger Kamba fait une déclaration hier lors du briefing tenu conjointement avec le porte-parole du gouvernement de la RDC. Écoutons le ministre congolais de la Santé dans cet extrait proposé par Alain Yung.
Peut-être beaucoup de gens ne savaient pas, c'est que les Américains avaient développé, comme notre traitement contre Zaïre, ils avaient développé un traitement, donc ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, qui a agi sur un test, qui a agi sur les trois types d'Ebola, c'est-à-dire Zaïre, Soudan et Bundibugyo. Et donc, nous avons demandé aux Américains de nous disponibiliser cette molécule-là pour pouvoir traiter les malades. Parce qu'ils en ont. Donc nous avons fait la demande officielle. On a déjà échangé beaucoup avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on va voir. Mais en fait, on ne va pas traiter les malades directement. On va faire ce qu'on appelle un essai clinique. Parce que ça a été testé en laboratoire. Ça a passé tous les stages d'évaluation. Mais comme il n'y avait pas d'Ebola autre que Zaïre, ça n'avait pas été utilisé. Donc nous allons utiliser, si les Américains nous en disponibilisent, cet anticorps monoclonal pour pouvoir traiter les malades. C'est vraiment pour les gens qui sont malades.
Dans la province du Nord Kivu, l'Organisation mondiale de la santé annonce un renforcement de la riposte et de la prévention contre Ebola, notamment à Goma et à Bukavu, dans la province du Sud Kivu. La représentante pays intérimaire de l'OMS, Anne Ancia, en mission hier à Goma, a fait état de l'arrivée imminente de 12 tonnes de matériel d'appui. Ces équipements de protection individuelle et des médicaments sont actuellement en transit via Kigali au Rwanda. Face à la circulation du virus, elle appelle à une collaboration accrue de la population pour assurer l'efficacité des mesures de riposte. Anne Ancia au micro de Bernadette Nyangi.
Nous avons besoin de la contribution de la population pour pouvoir gérer cette épidémie, travailler à diminuer et même à arrêter la transmission de cette épidémie et la transmission du virus qui est en train de circuler particulièrement dans la province de l'Ituri, mais nous savons aussi qu'il circule dans le nord du Nord Kivu et qu'il a circulé en tout cas ici à Goma et même à Bukavu. Nous avons 6 tonnes de matériel de protection individuelle et 6 tonnes de médicaments qui sont en transit. Ce cargo devrait arriver à Kigali. Le représentant de l'Organisation mondiale de la santé à Kigali travaille sur un convoi humanitaire qui viendrait sur la ville de Goma pour amener ce matériel et ces traitements. Je suis ici pour quelques jours pour pouvoir discuter avec les professionnels de la santé, les experts en épidémiologie de l'appui pour pouvoir renforcer le laboratoire de Goma.
Rappelons que depuis le 17 mai dernier, un seul cas confirmé d'Ebola a été enregistré à Goma. Le patient, actuellement en prise en charge, présenterait une évolution favorable selon des sources médicales. Et puis le directeur général du plus sérieux laboratoire médical public de la RDC qui a affirmé hier en Mbujimayi, le gouvernement congolais appuyé par ses partenaires du secteur de la santé intensifie les efforts pour contenir la propagation du virus Ebola Nituri, une position de Jean-Jacques Muyembe qui vient balayer les inquiétudes exprimées lundi lors de l'émission Dialogue entre Congolais de Radio Okapi par un membre de la société civile. Ce dernier dénonçait le manque d'intrants de protection pour le personnel soignant et l'insuffisance de la prise en charge médicale qu'il estime être à l'origine de la recrudescence des cas et des décès liés à Ebola. Le docteur Jean-Jacques Muyembe s'exprime au micro d'Esther Ndalafina.
Sur place, à Bunia, à Rwampara, à Mongwalou, les organismes internationaux tels que l'OMS, l'UNICEF, MSF ont apporté suffisamment de matériel de protection. Donc ce n'est plus un problème pour le moment. Et je vous dis que le matériel de protection c'est très important, surtout pour le personnel soignant, parce qu'un médecin ou un infirmier qui est malade, ça décourage donc la population et ça ce n'est pas bon. Donc il faut absolument protéger le personnel soignant qui se trouve à la première ligne. Le message c'est de dire vraiment qu'il n'y a pas de raison de paniquer parce que c'est notre 17e épidémie. La RDC a développé une certaine expertise dans la lutte contre cette maladie qui est reconnue dans le monde entier. Bon, maintenant, les surprises ne manquent jamais. Nous ne savons pas si ce virus qui, au départ, était un virus moins létal que le virus que Ebola, virus de Zaïre, c'était moins létal. Maintenant, nous ne savons pas ce qui se passe exactement sur le terrain. Dans les jours à venir, nous serons vraiment informés. Mais il n'y a pas de raison de paniquer.
Pendant ce temps à Beni, dans la province du Nord Kivu, l'hôpital général de référence dispose désormais, je vous en prie, d'un bâtiment équipé pour la prise en charge des détenus malades. C'est grâce à un appui à impact rapide de la MONUSCO à travers sa section d'appui et d'administration pénitentiaire d'un coût global de $50,000 américains. Cette infrastructure de 23 lits comprend deux pavillons séparés pour les hommes et les femmes. Le bâtiment est également équipé de matelas, de couvertures ainsi que d'installations hygiéniques. Une remise officielle réalisée hier en présence des autorités sanitaires et pénitentiaires de Beni. Pour Patrick Mukendi, chef de la division provinciale de la justice, ce bâtiment vient répondre aux difficultés de prise en charge médicale des détenus de la prison urbaine de Beni. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Nous avons un pavillon, mais qui a deux compartiments. C'est séparé. Il y a le compartiment des femmes et le compartiment des hommes. Donc, c'est une nette séparation entre les hommes et les femmes. Ce bâtiment est venu résoudre un problème réel. Les détenus qui étaient chaque fois incarcérés ici connaissaient des problèmes très sérieux d'évasion, de suivi. Mais aujourd'hui, ce bâtiment va nous permettre de résoudre un certain nombre de problèmes que l'administration pénitentiaire connaissait dans les temps. D'abord, les soins des détenus. Ils vont recevoir les soins de qualité et aussi la surveillance parce que en dehors des soins, nous avons un problème sérieux de la garde et la protection même de ces détenus. Donc le bâtiment est venu résoudre un problème réel que connaissait l'administration pénitentiaire. Au personnel soignant, nous leur demandons d'assurer un service de qualité aux détenus et au personnel pénitentiaire que chacun fasse quelque chose de très important par rapport à la mission qui lui a été confiée.
À noter aussi que depuis plusieurs mois, des décès sont signalés à la prison urbaine de Beni, notamment à cause du manque de prise en charge adéquate des détenus malades. La sécurisation des frontières entre la RDC et le Burundi a été au centre des échanges hier à Bujumbura entre le vice-premier ministre congolais de la Défense et son homologue burundaise. Guy Kabombo et Marie-Chantal Ninjimbere ont également abordé les défis sécuritaires de la sous-région ainsi que le renforcement des mécanismes de coopération en matière de défense entre Kinshasa et Bujumbura. Jean Kassami.
De prime abord, Guy Kabombo a transmis la reconnaissance du gouvernement de la RDC au Burundi pour son appui dans la lutte contre l'agression de la partie est du pays. Il a rendu hommage aux militaires burundais tombés sur les champs de bataille aux côtés des FRDC. Ensuite, les deux personnalités ont procédé à la validation du rapport en matière de la défense élaboré et soumis par les experts de deux États. rapport axé principalement sur la coopération militaire entre Kinshasa et Bujumbura. Guy Kabombo a visité les militaires congolais blessés au front et qui suivent les soins au Burundi. Il a aussi effectué un passage éclair au siège de la CIRGL où il a été reçu par le secrétaire exécutif de cette institution régionale. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Et puis le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, promet de mettre fin aux agents fictifs et de rétablir plus d'équité dans le paiement des fonctionnaires en RDC. Il l'a déclaré hier au Sénat où il répondait à une question orale avec débat du sénateur Janvier Mouicha. L'auteur de cette initiative dénonce plusieurs dysfonctionnements dans la gestion des agents de l'État, notamment les inégalités salariales, les retards de paiement et la présence d'agents fictifs qui pèsent sur les finances publiques, une situation qui fait de la réforme de la fonction publique l'un des grands défis en RDC. Les détails de Grâce Amzati.
Au cours de cette séance plénière, plusieurs préoccupations liées au fonctionnement de l'administration publique ont été soulevées par les sénateurs. L'auteur de cette action parlementaire, le sénateur Janvier Mouchakassiwa, a dénoncé notamment les effectifs jugés pléthoriques dans certains services publics, les recrutements désordonnés, les disparités salariales entre Kinshasa et les provinces, ainsi que la présence persistante d'agents fictifs dans l'administration. Face à ces préoccupations, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou a reconnu plusieurs dysfonctionnements qui fragilisent encore la fonction publique congolaise. Il a toutefois assuré que le gouvernement a déjà engagé plusieurs réformes pour assainir le secteur, notamment la bancarisation intégrale de la paie, la mécanisation des procédures administratives, ainsi que la mise en place d'un fichier unique de référence pour identifier les agents de l'État. Le ministre promet qu'il n'y aura plus de place pour les agents fictifs. Il affirme que les doublons seront traqués et que chaque fonctionnaire devra désormais être identifié et payer de manière équitable, quel que soit son lieu d'affectation. Le dossier de la réforme de la fonction publique a finalement été transmis à la commission socio-culturelle du Sénat pour approfondissement et formulation des recommandations, avec pour objectif de doter la RDC d'une administration publique plus juste et davantage au service de tous les Congolais.
Les activités socio-économiques dépendantes de l'énergie électrique sont à l'arrêt dans la commune de Mukambo, en territoire de Sakanya, dans le Haut-Katanga. Cette paralysie résulte de la coupure du courant fourni par la Zambie qui alimente trois territoires de la province. Selon le responsable de la société civile du Congo à Sakanya, il est urgent que les autorités compétentes engagent des discussions avec la partie zambienne afin de résoudre la situation. Il souligne que plus le temps passe, plus les conditions de vie se dégradent pour les populations touchées par cette interruption d'électricité qui dure depuis plus d'une semaine. On écoute Jean Olondo, il est joint par Jean Kassami.
Il y a à peu près une semaine et demie, la Zambie a interrompu la fourniture de l'énergie électrique dans les territoires de Sakanya, y compris la commune de Mukambo. Et maintenant, il y a des situations inquiétantes qui se passent. Cela veut dire que les activités socio-économiques dans plusieurs foyers sont arrêtées. Entre autres, les gens qui vendent des aliments frais dans des frigos, ils ne les vendent plus. Dans nos frigos, dans nos congélateurs, il n'y a que des cangrelas et des souris. Et puis, nous avons les soudeurs, ils ont fermé leurs portes. Nous avons aussi les gens des moulins, ont fermé leurs portes. Les coiffeurs ont fermé leurs portes. Et beaucoup d'autres activités s'est fermé. Nous voyons que le chômage a augmenté en progression géométrique. Nous demandons à toutes les autorités compétentes impliquées dans ce dossier d'accélérer les démarches pour que le pire ne soit arrivé.
Au Kasaï central, la commune rurale de Matamba est confrontée à une avancée inquiétante des têtes d'érosion. Selon nos sources, plusieurs maisons ainsi que des infrastructures publiques ont déjà été englouties par des ravins. Une situation qui plonge les habitants dans l'inquiétude. Les acteurs de la société civile appellent les autorités à une intervention urgente pour limiter les dégâts, compte rendu de André Katende.
À Matamba, les têtes d'érosion continuent de progresser et causent déjà d'importants dégâts. Parmi les infrastructures touchées figure le marché central de la commune, aujourd'hui englouti par un ravin, rapporte la société civile locale. Barthélémy Bakengantumba, président du cadre de concertation de la société civile de Matamba, affirme que cette situation affecte gravement les activités commerciales et les familles qui dépendent du petit commerce pour survivre.
Aujourd'hui, plusieurs ravins menacent sérieusement la population. L'un d'eux a déjà englouti le marché central de Matam, causant d'importantes pertes économiques et affectant de nombreuses familles qui vivaient du petit commerce.
Plusieurs habitations ont également été détruites. La route nationale numéro 1 est elle aussi menacée par l'avancée des érosions. Malgré cette situation, aucune intervention des luttes anti-érosives n'a encore été lancée, regrettent les acteurs de la société civile. Ils appellent les autorités provinciales et nationales à agir rapidement pour protéger les habitants de cette commune qui vivent désormais dans la peur des nouvelles catastrophes. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
Actualité internationale.
En dehors du pays, l'armée israélienne qui a étendu ses opérations terrestres contre le Hezbollah au-delà de la ligne jaune qu'elle a établie dans le sud du Liban continue de frapper la région. Par ailleurs, le ministre iranien des Affaires étrangères a accusé hier les États-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines la nuit précédente sur le sud du pays. En Iran, la connexion à Internet a été partiellement restaurée toujours hier après une coupure quasi totale depuis 88 jours.
L'invité.
Comme annoncé, une délégation conjointe de l'UNFPA, de l'UNICEF et de l'OMS séjourne à Bunyanituri dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Cette mission vise à renforcer les efforts des autorités provinciales dans la lutte contre cette épidémie qui a déjà causé des centaines de décès dans la région. Pour en parler, nous recevons Alain Akwanji, représentant résident du Fonds des Nations Unies pour la Population, UNFPA en RDC. Il s'entretient avec Martial Kiza.
Alain Akpadji, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Nitouri où l'épidémie d'Ebola bat son plein. Quelle est la contribution de UNFPA à la riposte contre cette maladie?
D'abord, j'avais déjà prévu de venir rendre visite aux autorités de la province, aux collègues ici qui font un travail excellent depuis ma prise de fonction il y a exactement 8 mois. Mais l'urgence relative, n'est-ce pas, à l'épidémie Ebola nécessite que j'anticipe un peu les choses. Et donc, je suis arrivé ici depuis hier. D'abord, c'est une visite conjointe que nous avons dû vraiment précipiter avec le représentant de l'UNICEF et une forte délégation des équipes techniques de l'OMS, n'est-ce pas, pour voir dans quelle mesure nous allons apporter notre appui conjoint au plan de riposte du gouvernement provincial pour assurer vraiment à la fois la protection des populations et la protection du personnel de santé, et également comment allons-nous vraiment mutualiser et renforcer vraiment nos efforts de façon très coordonnée pour la sensibilisation et l'engagement communautaire.
Parmi les freins à la lutte contre Ebola à Ituri, il y a l'insécurité et les difficultés d'accès aux zones occupées par les groupes armés. Vous avez échangé avec le chef des bureaux de la MONUSCO à Bunia. Qu'attendez-vous de la mission onusienne?
Alors, je suis venu maintenant échanger avec les collègues de la MONUSCO qui jouent également un rôle très important, n'est-ce pas, en matière de protection des civils, n'est-ce pas, en matière de renforcement du système de sécurité, puis en matière d'engagement des communautés sur ces différentes questions. Donc, je suis venu faire un peu le point avec l'équipe ici sur ces questions, les remercier surtout pour la collaboration qu'ils ont déjà avec mon équipe sur la question des violences basées sur le genre, etc.
Alain Akpadji, certains habitants continuent à nier l'existence même de la maladie à virus Ebola, malgré les nombreuses victimes déjà enregistrées à l'Ituri. Comment expliquez-vous ces résistances et surtout, que leur dites-vous pour lutter contre la désinformation autour d'Ebola?
Comme vous le savez, avec la propagation de la pandémie, la fréquentation des services de santé constitue un défi. Déjà, les indicateurs en matière de santé et de la santé sexuelle et de la reproduction généralement et les violences basées sur le genre par rapport au mandat de l'UNEPIE étaient déjà un défi en temps normal. Je vous donne juste un exemple, 746 décès ou 100 000 naissances vivantes. Et donc, avec l'épidémie, donc la fréquentation des maternités, ça baisse. La fréquentation des structures de soins, ça baisse. La protection des sages-femmes constitue vraiment un défi. Et donc, nous sommes venus pour discuter avec les parties prenantes pour voir comment est-ce que nous pouvons travailler ensemble avec les différents partenaires pour assurer la continuité des services essentiels en matière de santé sexuelle, de la reproduction, lutte contre les violences basées sur le genre, protection des exploitations et abus sexuels et la redevabilité aux populations affectées. Je peux dire globalement ça s'est très bien passé. Et puis c'était l'occasion également pour nous, l'UNEPIE, de procéder à la remise d'une ambulance pour soutenir les efforts du gouvernement provincial par rapport au référencement des cas des femmes enceintes qui ont des complications de grossesse et des complications d'accouchement. Et les collègues de l'UNICEF ont également procédé à la remise de motos, n'est-ce pas? Très très important dans ces contextes-là.
Alain Akpadji, merci.
Merci.